RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'est une passionnante entreprise humaine que nous raconte l'Institut du Monde Arabe à Paris, le percement de l'isthme de Suez qui a permis de relier la mer Rouge à la Méditerranée. Une aventure commencée en Égypte il y a 4000 ans et qui a rapproché trois continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, tout en favorisant la circulation des idées et des marchandises. L'épopée du canal de Suez des pharaons au XXIe siècle, un lieu unique au monde et une exposition qui plonge le visiteur en immersion au cœur de l'inauguration de 1869 avant de lui faire remonter le temps. Grand reportage en Égypte sur les traces du passé de ce grand ouvrage signé Isabelle Chenu.
En cet automne 1869, plusieurs milliers de personnalités venues à grands frais des quatre coins du monde débarquent dans le port égyptien d'Alexandrie. Ils sont accueillis par Ferdinand de Lesseps, 64 ans, le constructeur du canal de Suez, aristocrate français, ancien diplomate reconverti en homme d'affaires et grand ami de l'ancien khédive Mohamed Saïd Pacha, qui 10 ans plus tôt a décidé de faire entrer son pays dans la modernité. Parmi les passagers, raconte Claude Mollard, un des commissaires de l'exposition, le poète et romancier Théophile Gautier, le peintre Eugène Fromentin, les chroniqueurs de tous les grands journaux de l'époque et l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Ils partent en voyage en Haute-Égypte.
L'impératrice ne vient pas pour 8 jours, elle vient pour 3 mois. Elle va à l'époque avec Mariette, qui est le grand égyptologue, faire une chevauchée à dos de dromadaire ou tiré par des voitures dans les grands sites archéologiques de l'époque, accompagnés par une centaine d'experts, de savants, de militaires, de gens de l'Institut, de l'École des Beaux-Arts, etc., etc. Donc il y a une sorte de triomphe de l'égyptomania à cette époque-là.
L'impératrice et son cortège rallient finalement Port Saïd, une ville nouvelle située à l'embouchure nord du canal de Suez, pour une immense fête d'inauguration le 17 novembre 1869.
L'inauguration de 1869, c'est une sorte de grande célébration universelle, universaliste, œcuménique, avec les pouvoirs publics d'un côté, dans un pavillon, et un pavillon des musulmans et un pavillon des chrétiens. Et tout le monde à Port Saïd célèbre le même hymne de fraternité et d'espérance dans le bonheur universel. Ils vont être déçus. D'ailleurs, Saïd Pacha, qui a lancé le canal de Suez, était en désaccord avec son père, parce que Mehmet Ali ne voulait pas du canal, parce qu'il pensait que les grandes puissances allaient s'en emparer, ce qui n'a pas manqué de se produire.
C'est effectivement une histoire pleine de rebondissements politiques que nous compte l'exposition de l'Institut du Monde Arabe. Des Vénitiens, en passant par les sultans de Constantinople, puis par l'expédition égyptienne de Napoléon Bonaparte en 1798, ils seront nombreux à vouloir relancer l'idée de la construction d'un canal.
Alors c'est un grand film que je veux en quelque sorte reconstitué, parce que c'est une épopée. Nous allons immerger les visiteurs dans des grands moments. Donc on est en 1869 et l'invité d'honneur, c'est l'impératrice Eugénie française. Et Napoléon III reste en France. Mais là, on a l'empereur d'Autriche, on a toutes les têtes couronnées, on a Abdelkader, etc., etc. Et donc les visiteurs vont se retrouver dans les pavillons d'exposition comme s'ils assistaient à l'arrivée de l'impératrice, au discours des uns et des autres, le tout étant commenté par le Léon Zitrone de l'époque, qui s'appelle Frédéric Mitterrand, qui nous prête sa voix. Donc c'est un grand moment fort, puisque l'Égypte veut se moderniser. Donc c'est une volonté politique forte de l'Égypte de devenir européenne.
Quelques kilomètres plus au sud, au milieu du canal, la petite ville d'Ismaïlia revêt elle aussi ses plus beaux atours pour accueillir les invités de prestige autour de dîners fastueux donnés par Ismaïl Pacha en cette fin d'année 1869. « Retour à Ismaïlia, 149 ans plus tard. La maison en briques claires de Ferdinand de Lesseps est toujours debout. Les murs recouverts de treilles vertes, le jardin planté de palmiers et une chambre composée du lit présumé authentique du français surmonté d'une photographie en costume traditionnel égyptien. Les vestiges d'une époque ancienne face à des constructions flambant neuves, grand hôtel et centre commercial, signe du dynamisme moderne du nouveau canal.
On est ici au milieu des palmiers, on pourrait se croire quelque part en Caraïbes, avec un grand lac très plat. C'est un lac salé, puisqu'il est relié à la mer Rouge et à la mer Méditerranée. Et c'est par le biais de ce lac, d'ailleurs, que est assurée l'égalité des niveaux des eaux entre les deux mers. Ismaïlia, c'est une ville nouvelle, ancienne. Elle est ancienne parce qu'elle a été créée pour le canal de Suez dans les années 1850-1860, puisque c'est un peu le système nerveux central du canal de Suez. C'est là que Ferdinand de Lesseps avait ses bureaux, c'est là que la compagnie du canal de Suez était installée. Et donc on a aujourd'hui le charme d'une villégiature d'autrefois, et puis en même temps toute l'activité d'un nouveau canal qui se développe et s'élargit.
C'est ici, il y a 3 ans, que le canal de Suez a été doublé sur une partie de son tracé pour limiter le temps d'attente des bateaux à 3 heures au lieu de 11. Ils sont près d'une centaine par jour à l'emprunter pour des recettes espérées de 10 milliards d'euros par an en droit de passage. À Ismaïlia, l'autorité du canal de Suez possède un petit musée qui retrace l'histoire du grand ouvrage. Maquette des bâtiments administratifs de la société, de la compagnie universelle du 19e siècle, portraits de Saïd Pacha ou de Ferdinand de Lesseps, objets divers, timbres, médailles, mais aussi rares photographies des ouvriers qui ont construit l'ouvrage en plein désert. 1 million d'Égyptiens auraient participé à la corvée, 100 000 seraient morts d'épuisement ou de maladie, selon un bilan officiel des autorités égyptiennes. Gilles Gauthier, ancien consul de France à Alexandrie et commissaire scientifique de l'exposition.
Le système employé est la corvée. C'est-à-dire que Lesseps récolte de l'argent en France, n'en a pas suffisamment, et l'Égypte s'engage à participer en fournissant la main-d'œuvre. Fournir la main-d'œuvre dans l'esprit d'un khédive, c'est banalement faire appel à la corvée, qui est à dire le travail forcé. Des paysans qui, à la saison de l'inondation, ne travaillent pas, puisque les terres sont inondées, donc on les fait venir, on les fait travailler sur le chantier. Il y a eu des épidémies, des morts, le travail se faisait dans des conditions difficiles, et il y a eu une prise de conscience de l'opinion publique internationale qui commençait à naître à cette époque-là, la presse se développait, et à ce moment-là on s'est lancé dans l'industrialisation à outrance. Pour la première fois, on a eu des grandes machines qui draguaient. On verra des photographies de l'époque avec ces grandes machines. Et aussi, on fait venir une main-d'œuvre étrangère, de Grèce, beaucoup. Et alors, ce chantier, donc, revient plus cher. Et c'est en grande partie ça qui est responsable de la dette égyptienne.
Une dette qui contraindra le khédive à vendre aux Anglais en 1875. Sur un mur du petit musée, une affiche de l'opéra de Verdi, Aïda, attire l'œil. L'histoire qui se déroule au temps des pharaons est une commande du khédive Ismaïl Pacha.
C'est quand même ce qui montre le développement de l'Égypte à l'époque. C'est que le khédive a l'idée de créer un opéra pour l'inauguration et un opéra qui a un thème égyptien. Et donc, il commande à Verdi l'opéra d'Aïda. Malheureusement, l'opéra arrive trop tard. Et l'opéra du Caire aussi n'est pas encore tout à fait construit, donc Aïda sera jouée au Caire 2 ans plus tard.
Anecdotique, mais aussi symbolique, l'exposition nous apprend que c'est une paysanne égyptienne qui, à New York, éclaire le monde. La statue de la liberté est née à Suez.
En fait, la statue que l'on voit à New York est celle d'une paysanne égyptienne drapée dans sa galabillée. Et cette paysanne égyptienne a été prévue pour illuminer l'entrée du canal, pour être une sorte de phare avec sa torche. Et donc Bartholdi, le sculpteur, est allé en Égypte, a fait des repérages, a dessiné un petit peu tous les gens qu'il voyait, puis il l'a proposé au Khedive Ismail, qui était intéressé, mais qui ensuite, un petit peu a oublié le projet, puis surtout, qui était trop endetté pour se lancer dans une nouvelle dépense. Et donc Bartholdi a vendu son projet aux États-Unis.
L'importance politique et militaire du canal en fait un lieu stratégique. À Port Saïd, sur le front de mer, trône un immense socle vide. C'est celui de la statue de Ferdinand de Lesseps, dynamitée après la nationalisation du canal de Suez en 1956. Récemment restaurée, elle est pour l'heure reléguée dans un hangar. Flore Bernier est la directrice de l'Alliance française de Port Saïd.
Alors déjà, c'est une ambiance à la fois méditerranéenne et portuaire. C'est une ville où les gens sont extrêmement accueillants, extrêmement chaleureux. C'est une ville aussi qui est à taille humaine, tout se fait à pied. Et puis, bien sûr, il y a à la fois la mer et le canal qui fait entièrement partie de la ville, du quotidien des habitants de Port Saïd, puisque Port Saïd est un gouvernorat où il y a le quartier Port Saïd et aussi Port Fouad. Et donc, il y a des gens qui habitent à Port Fouad de l'autre côté du canal, sur la rive asiatique, et qui travaillent à Port Saïd sur la rive africaine. Donc, on a des allers-retours permanents toute la journée jusqu'à la nuit entre ces deux rives. Donc ça crée une vraie circulation. Port Saïd est vraiment le cœur en fait des échanges commerciaux mondiaux, et malheureusement il n'y a pas assez de tourisme, alors que en comparaison le canal du Panama est beaucoup plus visité, beaucoup plus touristique. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est que vraiment le canal de Suez n'est pas une œuvre française, mais vraiment une œuvre égyptienne. C'est un projet qui date des pharaons. Ferdinand de Lesseps a eu l'autorisation de construire ce canal que grâce à Saïd Pacha. S'il n'avait pas eu l'autorisation de Saïd Pacha, il n'aurait pas pu construire ce canal.
La ville de Port Saïd a des airs d'Istanbul. Un bac la relie à Port Fouad, sa sœur jumelle à l'est, qui conserve les traces de l'histoire cosmopolite du canal, comme en témoigne un quartier de petites maisons entièrement bâties à l'européenne. Ashraf Hamdi est guide.
La construction de la ville commençait à l'année 1920, sous le règne du roi Fouad Ier. Et c'était habité par 800 étrangers qui travaillaient dans l'administration du canal, de la compagnie internationale du canal Suez. C'était comme un quartier des étrangers, la construction des maisons construites sur le style français. Mais bien sûr avec un petit style égyptien de pays chaud, bien sûr avec les terrasses et puis les petits parasols pour éviter un peu la chaleur et le soleil de l'Égypte. Jusque maintenant, en fait, toutes les maisons sont encore habitées par les hauts responsables de Canal Suez.
Donc là, on est face à une maison qui est en train d'être restaurée.
La plus belle, la plus grande, c'est une des maisons qui était aussi parmi les maisons des hauts employés de la compagnie de Suez. Mais c'était utilisé, après la nationalisation de Canal Suez, c'était utilisé par le président Nasser.
En 50 km plus bas, à l'extrême sud du canal, la ville de Suez conserve dans son musée les traces d'une histoire vieille de 4000 ans. Visite guidée.
Le musée raconte dans 6 salles, raconte l'histoire de la ville de Suez et l'importance de la ville de Suez, spécialement à partir de l'époque des pharaons, avec bien sûr l'histoire de Canal Suez. On commence ici par la salle de Sisostris, c'est là où nous sommes.
L'Égypte ancienne avait compris de longue date l'intérêt de créer une voie navigable entre la mer Rouge et la Méditerranée. Le roi Sésostris III, 18 siècles avant l'ère chrétienne, fait creuser un canal. Gilles Gauthier.
On est à Suez, à l'entrée du canal de Suez, et il y avait, dans l'Antiquité, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, un canal qui partait de Suez. Simplement, ce canal qui partait de Suez n'allait pas jusqu'à la Méditerranée, il allait jusqu'au Nil, et par le Nil, on pouvait
je rejoins la Méditerranée. Et puis il y a à l'extérieur un grand bateau de la reine Hatshepsut. Hatshepsut qui avait organisé une grande expédition vers les pays de Punt. Les pays de Punt, c'était l'Éthiopie et le Yémen, d'où venaient les épices.
L'autre temps fort de l'exposition de l'Institut du monde arabe se situe un peu plus de 100 ans après l'inauguration du canal de Suez. Le 26 juillet 1956, à Alexandrie, place El Mancheya, depuis l'ancien bâtiment de la Bourse, le président Gamal Abdel Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez. La concession anglaise arrive à expiration, 20 ans après l'indépendance de l'Égypte, un coup de tonnerre. Les Européens s'inquiètent, rapatrient leur personnel. Comment l'Égypte va-t-elle faire fonctionner le canal? Il manque des centaines de pilotes.
Alexandrie, c'est la base de l'armée, les forces maritimes qui devaient protéger l'Égypte, protéger la côte est de l'Égypte. Alors bien sûr, c'était ça, un moment assez particulier. Parce qu'ils savaient que les employés, les fonctionnaires, tout le monde va quitter leur place. Et puis, il faut trouver des gens qui ont des expériences maritimes pour pouvoir continuer à diriger le canal. Il y avait certains fonctionnaires qui ont accepté à continuer à diriger le canal avec, bien sûr, l'aide des forces maritimes égyptiennes à l'époque. Vraiment, dans cette période, oui, ça a changé pas seulement la vie des Égyptiens, mais la vie aussi de certains pays dans le monde arabe. Nasser, ils ont trouvé comme si c'est le sauveur de pas seulement de l'Égypte, mais du monde arabe.
Ashraf Hamdi raconte, en octobre 1956, le Royaume-Uni, la France et Israël qui débarquent en Égypte, les Nations Unies qui condamnent l'expédition. Une semaine plus tard, c'est un fiasco diplomatique et militaire.
Branle-bas de combat au Moyen-Orient, aux concentrations des divisions blindées égyptiennes dans le désert du Sinaï, Israël a répondu par la mise en place d'un dispositif non moins impressionnant. Le moindre incident peut déclencher l'affrontement si la modération ne l'emporte pas.
Le canal de Suez sera aussi un lieu de combat. En juin 1967, lors de la guerre des Six Jours, Israël occupe le Sinaï et la rive orientale du canal qui restera fermée pendant 8 ans. En octobre 1973, l'Égypte et la Syrie attaquent Israël par surprise. C'est le début de la guerre du Kippour. Après plusieurs mois de travaux de déminage, le canal de Suez est rouvert le 5 juin 1975 par le président Anwar el-Sadat. Aujourd'hui, le projet d'installation d'une vaste zone industrielle sur ses rives est toujours d'actualité, comme l'explique Gilles Gauthier, commissaire de l'exposition.
Depuis 3 ans, un nouveau projet est en train d'être réalisé, qui est celui de créer une capitale administrative plus proche du canal. Le centre de gravité de l'Égypte est en train de basculer, non seulement entre le canal et le Caire, mais de l'autre côté du canal. En tout cas, là, à l'état de projet. Mais il y a au moins une réalisation, ce sont les tunnels. 6 tunnels au-dessous du canal, pour permettre une circulation fluide, pour faire que l'obstacle du canal disparaisse. Il y a aussi un très beau pont suspendu. Et puis, il y a des plans donc, pour créer une zone industrielle située des deux côtés de la voie d'eau par où passe la plus grande partie du commerce maritime mondial, où les produits de toutes sortes arrivent au meilleur prix. Si toutes les conditions sont réunies, elle deviendra une des zones les plus vivantes, les plus importantes du monde dans le domaine des activités économiques.
Le canal de Suez sera-t-il un nouveau Nil au cœur de l'Égypte? Certains osent le dire. L'épopée du canal de Suez, des pharaons au XXIe siècle, une exposition à voir à l'Institut du Monde Arabe à Paris jusqu'au 5 août. Grand reportage Isabelle Chenu, réalisation Pauline Leduc.